Dans Théroméga, page 165, en regard d'un schéma qui s'intitule la route christique, et suite à des explications d'ordre métaphysique sur la divinité dans l'homme, il y est fait allusion à des précisions alchimiques, page 161 et suivantes, qui se terminent par des commentaires du schéma que nous allons lire maintenant, et ça s'appelle Canevas de l'alchimie traditionnelle. Alors, voici le texte. Ce canevas est la base même de l'alchimie d'Ergon, l'adepte, aussi bien que celui fondamental de ses œuvres parerga. Je précise que parerga, c'est le pluriel de parergon. Donc il y a un binôme entre Ergon, l'adepte, et son parergon, son œuvre, et si on dit ça au pluriel, ses œuvres, les œuvres de l'alchimiste, quand cet alchimiste est un parergon, eh bien on appelle ça des parergas. Je reprends la lecture. Élévation sur le sentier, route christique, développement de la puissance occulte, montée de la divinité dans l'homme et dans ses travaux par adaptation multiple. Voyons ici ce canevas en nous appuyant sur l'échelle alchimique de la page précédente. Alors là, il y a un schéma dans lequel il y a trois cases d'un côté et puis deux, quatre, cinq cases de l'autre. Dans les trois cases du côté gauche du schéma, il y a marqué solvé et les cinq cases du côté droit du tableau, il y a marqué coagula. Les trois cases du côté gauche du tableau solvé font référence au schéma de la route christique qui est en face. Il faut vous munir de Théroméga pour pouvoir comprendre ce qu'on dit. Il y a donc une première étape de ramassage du limon. Dans le schéma, ça va de pré-alpha jusqu'à la partie marron, la fin de la partie marron qui descend. Donc elle est elle-même divisée en deux, si vous voulez, cette partie. Il y a une partie qui va de pré-alpha à Y. Et puis ensuite, elle va de Y à la symétrie de pré-alpha dans le cône sombre. Évidemment, si c'est la première fois que vous tombez sur ces terminologies, sur ces schémas, vous n'allez rien y comprendre, mais dans ce cas-là, partez en courant, ou bien sentez-vous inspiré, sentez une résonance avec ce qu'on dit, regardez d'autres articles sur ce site, puis vous reviendrez sur celui-là plus tard, quand vous serez un peu plus familiarisé peut-être avec ces terminologies. De toute façon, vous êtes les bienvenus, et de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. Alors, donc, il y a d'abord une descente, en quelque sorte, de pré-alpha jusqu'à cette partie qui correspond au cœur du cône noir. Et cette descente, qui descend vers le point alpha du centre de la sphère, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir, qui d'abord commence par une descente. Ensuite, elle se prolonge par une remontée, et tout ça, c'est l'œuvre au noir. Et après ça, il y a le travail de la colombe et enfin le travail du pan et de la rubification. Ça, ce sont les trois étapes traditionnelles de l'alchimie. Et donc, dans la phase dont on parle, première case du tableau, il y a marqué limon. Cette case elle-même se subdivise en deux, une partie qui est dans le cône blanc et une autre partie qui est plus basse dans le cône noir. Alors, c'est pourquoi il est écrit limon, materia prima, aimantation et ramassage. Il se peut qu'une partie dans le schéma corresponde à l'aimantation et que l'autre partie corresponde à ramassage. Je vous laisse le soin de méditer à ce que peut être ce limon et comment est-ce qu'on le ramasse. Il se peut aussi que ce limon soit en deux parties, indépendamment qu'on l'aimante et qu'on le ramasse, mais il se peut que il se recueille sous deux formes. Et que ce sont ces deux formes qu'il faille conjoindre pour réunir en quelque sorte les quatre énergies du vivant, le feu, l'air, l'eau, la terre, en un seul mariage d'un seul élément qui sera la fusion de ces deux parties du limon, de ces deux parties de la materia prima. Materia prima voulant dire en latin matière première. Bon. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie du tableau qui s'appelle distilla, et on voit que ça correspond au schéma à une descente et une remontée. il y a une descente vers le point alpha et puis une remontée du point alpha vers le point dont on était parti, qui correspond peu ou prou au cœur du cône tête en bas, qui est un cône sombre. C'est la sphère de prédilection de l'azote au sein du monde. Si vous n'avez pas fait un petit peu de métaphysique d'Antéroméga avant d'entendre mes propos, vous n'allez encore une fois rien y comprendre. Mais voilà, en plus de ça, je n'ai pas de choses à vous montrer puisque j'enregistre uniquement ma voix et donc je ne peux pas vous montrer avec mon doigt où ça se situe sur le schéma. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo du schéma pour que vous l'ayez sous les yeux pendant que vous m'écouterez, mais c'est tout ce que je peux faire à ce stade. Alors donc, les distillats, c'est cette fameuse eau ardente, la séparation du subtil et du grossier, qui va se traduire par une limpidité, c'est ce qui est écrit, et qui va donner lieu ensuite à une putréfaction, c'est la case d'après, qui s'appelle corbeau, lesquels corbeaux se divisent en deux, une partie qui est en dessous de la ligne XY qu'on appelle les corbeaux noirs, dans lequel il est écrit putréfaction, mort alchimique, et puis la couleur, si le limon était de couleur symbolique brune, le distillat était de couleur symbolique limpidité, c'est-à-dire transparence. Le corbeau noir est de couleur symbolique noir, évidemment. Puis on passe au corbeau bleu, dont la couleur symbolique sera évidemment le bleu. Et là, il est inscrit « début de résurrection ». Enfin, on a la colombe, dont la couleur est le blanc, qui correspond à ce qu'on appelle le petit magistère en alchimie traditionnelle, qui va donner ensuite la possibilité d'accéder au paon. Le paon est cet oiseau qui fait la roue avec sa queue et qui monte tout un tas de plumes avec tout un tas de couleurs comme un arc-en-ciel. Donc ça, la couleur, c'est orangé irisé. Puis ensuite, l'autre case à droite, c'est la rubification. Et c'est donc le grand magistère, et la couleur est le pourpre ou le rouge. Et puis enfin, les multiplications, qui sont elles-mêmes de couleur pourpre, et qui sont des multiplications à la fois qualitatives, mais également quantitatives. Voilà ce tableau campé oralement, mais vous l'avez sous les yeux juste en dessous, donc vous avez pu suivre ce que je vous ai dit, et en dessous de ce tableau, il y a le schéma de la route christique sur lequel vous devrez vous référer, vous reporter, pour comprendre à quel tableau du schéma correspondent les cases du tableau. Alors, ensuite, Jacques poursuit dans son texte avec un deuxième petit paragraphe qui s'appelle « Remarques sur notre cheminement initiatique ». Alors, petit a, il y a un certain nombre de tirets. Il y a petit b et petit c et on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il y a trois pages à lire. Alors, prenons notre mal en patience et je vais prendre mon souffle pour lire et puis vous... vous détendre sur votre chaise pour écouter. Alors, d'abord, il y a le travail qui va de pré-alpha jusqu'en MN. Alors, on va de la surface de la Terre d'Urne. Pour ça, il faut revoir le temps 6 des architectures. Et je crois que je vais commenter au fur et à mesure que je vais lire, parce que sinon, vous n'allez jamais comprendre quoi que ce soit. Donc, juste avant ce passage, il est question... de la métaphysique du chapitre 2 intitulé l'Arcane, dans lequel Jacques Breyer expose comment ça se passe en Dieu, puis ensuite comment ça se passe au sein d'un monde. Quel est le processus de déploiement de la conscience au sein d'un monde donné? Et au sein de ce monde donné, eh bien, l'éther connaît des concentrations diverses, des révoltes, des rébellions intérieures qui amènent à l'apparition du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et donc, c'est là où il nous dit qu'il y a des temps de la Terre, les temps de Notre-Dame, car Jacques appelle, ainsi que les Templiers, la planète Notre-Dame, qui n'était pas que la mère du petit Jésus, mais qui est aussi l'entité de notre planète. Voilà, on l'appelle Notre-Dame parce qu'on est plein de respect, d'admiration et de tendresse pour cet amour infini qui traduit la nature même dont nous sommes faits. Voilà, alors c'est pour ça qu'il dit « Revoir le temps 6 des architectures ». Dans les architectures de Notre-Dame, il y a une surface dite de la Terre d'Urne. Eh bien, c'est de cet endroit-là du schéma auquel Jacques fait allusion et dont il parle pour dire qu'on va là, on part de Mn. Alors, de Mn jusque en xy, il y a d'abord une durée pré-alpha, qui est une durée indéterminée. C'est là qu'il dit que c'est un lieu de dormition spirituelle adamique avant que nous ne soyons appelés par le sentier. Puis ensuite, de Mn, une fois qu'on est appelé par le sentier, de Mn en alpha, il y a, pardon, de Mn en xy, puis ensuite de xy en alpha, il y a une chute préparatoire à volet clos. C'est pour ça que ça se passe dans un cône qui se referme sur sa pointe, vers le point alpha, et c'est dans un cône noir, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd. Alors il dit chute préparatoire à volet clos, fumure, épreuve lourde vécue dans l'ignorance. Et puis ensuite, alpha, c'est le fond de la mine. C'est là où on a le chef renversé. Ça veut dire que la tête est renversée, c'est l'arcane peut-être du pendu dans le tarot, d'une manière symbolique. Quoiqu'encore, le tarot sera présenté en regard du schéma d'une autre manière que celle que je viens de dire, et le pendu sera la deuxième lame des corbeaux. Bon, en tous les cas, au moment où on descend et qu'on rencontre le point alpha et qu'on remonte, il y a bien un renversement. C'est donc ce que Jacques appelle le chef renversé. C'est-à-dire qu'on a la tête à l'envers. C'est ce qu'il dit juste après, tête en bas. Point de l'architecture naturelle où le coronal, donc le coronal c'est le chakra qui est au sommet de la tête, est susceptible d'être brutalement ouvert. En effet, voyez, le point alpha est en correspondance naturelle en droite ligne avec le point oméga tout en haut du schéma. Et donc le point oméga, c'est le pourtour de la sphère. Et bien ce point oméga peut rentrer en contact par une question de vision spirituelle. Il peut voir avec un regard pénétrant jusqu'au point alpha. Et donc là, il y a une circoncision du crâne, une ouverture du coronal, à condition d'être parfaitement dans l'axe, c'est ce que nous dit Jacques dans ce texte, par une descente innée provenant d'oméga, siège en correspondance directe avec alpha. Bon, évidemment, il y a dans la sphère une correspondance naturelle entre le centre de la sphère et le pourtour de la sphère, parce qu'ils traduisent les deux dimensions du point infini. Alors, dans une planète donnée, on n'est pas dans l'infini, on a des limites, mais ça s'inscrit sur la base du respire du principiel, qui est un point qui se découvre un centre et un pourtour respectivement infinis, et donc le centre et le pourtour de la sphère sont en aimantation et en adoration, en contemplation intime. Alors ensuite, dans un monde, il y aura de ce fait une correspondance, une correspondance directe entre oméga et alpha. Et donc quand un individu, fruit d'une planète, se retrouve dans la verticalité de sa condition, dans le bon axe, dans le bon alignement, au moment de sa jonction avec le point alpha, eh bien il va y avoir possiblement une descente de courant igné qui vienne du fond du ciel, c'est-à-dire de tout en haut oméga, et qui vont l'ouvrir par la tête et redescendre jusqu'au sexe. Et ce sont les jeux de la Kundalini qui sont peut-être commentés dans ce texte ou ailleurs. Enfin bon, en tout cas, je vous y fais un clin d'œil pour que vous vous y reportiez et que vous fassiez des liens, si toutefois vous êtes un travailleur et que tout ceci vous intéresse. Alors, je me rends maintenant en haut de la page 166 et je continue la lecture. Alpha devient alors l'instant pendant lequel l'individu s'empare du feu céleste, tandis que ce feu, tout autant, l'a choisi. Alors, il est fait référence ensuite à Jacob dans la tradition hébraïque, celui qui dérobe le flambeau pour l'évoluer et le jeter sur la foule, c'est encore, et là maintenant il fait allusion à la tradition taoïste, c'est encore le Chen Nong des Chinois. C'est aussi le dieu du feu des alchimistes, dit le souverain flamboyant, ou encore le laboureur divin, celui qui défriche. Voilà notre Shiva, et là nous voici partis en Inde avec la tradition shivaïste, dont les prouesses vont commencer. Voilà. En fait, dans travers ce petit paragraphe, Jacques nous dit que, de par le monde, toutes les traditions pointent vers cette alchimie, parce que bien évidemment, elle n'a échappé à personne, et tous les grands initiés de l'humanité, au travers des civilisations qu'ils ont fréquentées, ont chanté ce schéma de l'alchimie traditionnelle, et donc ils ont dit évidemment qu'il y a un flambeau, qu'il y a un feu, que ce soit Jacob, que ce soit les alchimistes, ou que ce soit les Indiens avec Shiva, tout le monde a bien vu qu'il y avait un feu qui démarrait à cet endroit-là par une circoncision du crâne, et que à partir de là, un certain nombre de choses d'agriculture céleste allaient pouvoir commencer. Qu'est-ce qui commence exactement ? Eh bien, je continue la lecture, d'alpha en XY, donc si vous suivez sur la route christique, alpha c'est le pointe du cône noir, c'est également le centre de la sphère, et bien de ce point alpha, il y a une remontée de la mine. Autrement dit, on était descendu dans la mine, qui est un symbole sur le sentier, où on plonge d'abord, rappelez-vous, il parle de fumure, d'épreuve à vol éclos, on plonge dans l'obscurité de soi-même, on y reçoit des épreuves qui sont dirigées, mais qui sont lourdes et vécues dans une partielle ignorance, puisqu'elles ont justement pour but de nous éclairer. Donc ça veut dire qu'on est dans l'obscurité, sinon elles n'auraient pas besoin de nous éclairer. Et si on a besoin d'être éclairé, c'est qu'on n'y voit pas clair. Donc elles ont besoin de nous réveiller la conscience. C'est pour ça qu'on vit ces épreuves dans une relative inconscience. Voilà, alors à partir de l'instant où le point alpha est ouvert et qu'il y a un contact avec le point oméga, eh bien il y a une progression de l'homme en solvé, sachant que le signe du cône pointe en bas, quand on le suit mentalement de bas vers le haut, on va de la pointe vers l'écartement, donc c'est un solvé. En alchimie, il y a deux figures, le solvé et le coagulat. Le coagulat se resserre et le solvé s'ouvre, parce que solvé, ça fait référence à dissolution, et coagulat à coagulation, donc à resserrement. Voilà, alors cette partie-là, ce sont des déchirements, des labourages, des ensemencements, des épreuves plus subtiles, vécues de plus en plus lucidement, évidemment, puisque maintenant la lumière est dans l'homme. C'est une forge, et la forge, véritablement, commence à partir du point alpha et pas avant. Avant, c'est la mine. Et après ça, c'est la forge. Un peu comme, si vous voulez, vous descendez dans une mine. Ensuite, vous prenez un minerai et vous le remontez pour le forger. Mais vous ne pouvez pas forger un minerai tant que vous ne l'avez pas d'abord remonté de la mine. Donc d'abord, on descend dans la mine et ensuite, on forge pour en faire un métal. Alors la forge, c'est le régime de Vulcain, avec ses destructions nécessaires, bien sûr. Il faut débarbouiller la pierre brute pour avoir une pierre taillée, ensuite comme son nom l'indique on va la tailler, puis ensuite on va la ciseler et à chaque fois on en retire. Eh bien c'est ça, au départ on réunit une matéria prima et on va lui retirer petit à petit un certain nombre de choses pour l'ouvrir et qu'il ne reste d'elle que la partie la plus subtile. Alors ça c'est la forge. Rigueur de Shiva, agriculture allant ainsi du coronal au sexe dans la Kundalini, et non pas inversement. Il fait là allusion à certaines traditions indiennes qui disent que en faisant des visualisations et des respirations sur les chakras de bas en haut, on peut éveiller la Kundalini. Jacques s'inscrit en faux contre cette vision en disant d'abord, c'est pas l'homme qui peut ouvrir la Kundalini, c'est une aimantation que l'homme réalise, mais c'est le feu céleste qui vient ouvrir la Kundalini, et il l'ouvre de haut en bas, et non pas de bas en haut. Alors ensuite, quand on a reçu la révélation de haut en bas, eh bien effectivement, par degré, il va y avoir la mine qui va faire remonter le courant de bas en haut dans la colonne vertébrale, dans la Kundalini. Mais ça, c'est la lumière qui fait ça de l'intérieur et pas l'apprenti sorcier qui fait des exercices de respiration et de visualisation. Parce que ça, ben, ce n'est pas l'alchimie traditionnelle. Ça, c'est le bricolage. Voilà. Alors, vous verrez des textes indiens traditionnels dans lesquels il les fait référence à tout ça. Je ne voudrais pas les accuser de bricolage, mais il faut bien comprendre ce qu'ils disent, dans quel contexte, etc. Et ce n'est sûrement pas en contradiction avec la logique du royal secret. Et si c'était le cas, ça voudrait dire que ces textes seraient erronés. C'est tout. Ou mal traduits. Bon, Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je crois aux uns et pas à l'autre, c'est pas à l'un et pas aux autres, c'est parce que tout simplement, c'est la logique même. Il faut lire dans les architectures quelle est la vérité. Et je crois mieux à la vérité que je lis dans les architectures qu'à ce qu'un type me dit, qui a écrit un texte il y a 3000 ans, qui a été traduit 50 fois, et qu'on vient me présenter aujourd'hui par l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, et qui m'explique dans un brave cours de yoga de la MJC du quartier qu'il faut faire des exercices pour remonter la Kundalini de bas en haut. Vous m'excuserez, mais j'ai pas trop confiance. Si on remonte à la métaphysique et que ça coïncide, ben je dis ben tant mieux, mais si ça coïncide pas, ben je dis ben il se trompe. Parce que moi, j'écoute la métaphysique, j'écoute mon cœur, j'écoute de l'intérieur ce que je comprends profondément, ce que la lumière intérieure me montre de l'intérieur, avant de croire à des pseudo-lumières qu'on me montrerait de l'extérieur. Bon, bref. Alors, on en est là. Ensuite, le point suivant, ça va de XY à oméga. C'est la floraison, la fructification ou la récolte, la progression de l'homme en coagula. C'est une étape de construction après l'étape de destruction qui était précédemment nécessaire. C'est la miséricorde après les rigueurs. C'est les joies du régime de Vishnu après les rigueurs de Shiva. Donc les joies du régime de Vishnu qui se déploient seulement maintenant, depuis le sexe jusqu'au coronal. Voilà. Alors, en fait, comme je commente le texte en même temps que je le lis, moi, je vais vous mettre le texte de Téroméga sous le schéma, et puis vous n'aurez qu'à lire en même temps que je commente, parce que je ne peux pas à la fois lire à voix haute et ensuite commenter. Il faudrait que je lise tout à voix haute, et après ça que je relise et que je recommente pied à pied, ce serait beaucoup trop long et casse-pied pour vous. Donc, lisez donc le texte en même temps que je vous le commente, et puis ça ira bien comme ça. Alors, ensuite, on a retour d'oméga en alpha. Quand vous êtes tout en haut du cône sur le schéma de la page 164, eh bien, voyez, vous êtes descendu depuis pré-alpha sur le côté là. Vous êtes descendu par le petit chemin marron. Puis ensuite, vous avez descendu jusqu'au point alpha avec les hachures. Puis vous êtes remonté par les hachures. Puis vous êtes remonté encore sur en XY par la partie en noir dans laquelle est marqué corbeau, à droite du schéma. Puis ensuite, on est remonté de cet XY jusqu'à oméga. Donc on est là tout en haut du cône cette fois-ci. On est en contact avec la sphère. Et qu'est-ce que Jacques écrit? Eh bien, on est de retour non, pardon. Eh non, c'est moi qui dis une connerie. On est déjà remonté en oméga tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on a dit, c'était XY oméga, la floraison, la fructification, etc. Et maintenant, on redescend d'oméga en alpha. Donc, vous voyez, vous êtes remonté sur le côté droit du schéma, on va dire. Et puis, vous voyez, il y a une petite flèche en pointillé, en rouge, où il y a marqué cristallité. Et puis, je sais pas si j'arrive pas à lire ce qui est écrit en petit, peut-être oméga, un truc comme ça. J'ai pas de lunettes. Mais ça, il y a marqué oméga. Donc, on va redescendre d'oméga en alpha, mais cette fois-ci l'oméga est rouge et l'alpha est rouge, alors qu'avant l'alpha était noir et l'oméga était noir, parce qu'ils n'étaient pas éclairés, parce qu'ils n'étaient pas sanctifiés, parce qu'ils n'étaient pas alchimiés. Donc il est écrit retour d'oméga rouge en alpha rouge, en quelque sorte, et ça fait référence à la souveraineté du temps 1 dans les jeux de flèches superposées de l'échelle de Jacob, désormais vaincu par l'initié, c'est-à-dire que l'initié non seulement a compris ce qui est marqué sur les petits papiers dans Téroméga, mais il l'a vécu de l'intérieur et il a fait ce cheminement, il est passé par toutes les étapes et toutes les épreuves, et donc s'il en est là, c'est qu'il a vaincu le jeu de flèches. Alors c'est consommation éthérique de la récolte, là il va consommer l'éther. C'est la gloire adamique, donc là on fait allusion quelque part au corps glorieux, le corps glorieux qui est l'occasion pour l'esprit de s'entourer d'un corps de gloire et d'un corps donc animique. Donc cette gloire adamique qui est humainement divine, c'est-à-dire que c'est la jonction entre l'état humain et l'état Christ, révélé et accompli, donc jusqu'à fusion au Graal, qui est la fusion au Père, où tout est définitivement accompli, telle est la loi pour nous, dans le meilleur des cas, évidemment, depuis son commencement jusqu'à son terme pratique. Alors évidemment, dans le meilleur des cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés, il y en a peu qui sont élus, il y a beaucoup de gens qui commencent sur le sentier puis qui n'ont pas le temps de finir. Alors peut-être que par les jeux des réincarnations, ils reviendront et ils reprendront le travail là où ils l'avaient laissé. Mais en tous les cas, il faut peut-être plusieurs tours de roue, pour ne pas dire plusieurs réincarnations, pour faire le cheminement complet. Ce n'est que peut-être qu'à la fin qu'on fait un tour de roue du début à la fin de sa vie, où on passe par toutes les étapes jusqu'à la dernière. Voilà. Alors ensuite, dans le schéma de la route christique, des diagonales rouge, jaune, bleu et noir ont été tirées. Ces diagonales, bon, alors en fait, je vais m'arrêter là parce que ça suffit bien. Là, on va s'écarter de notre sujet qui est l'alchimie. On verra ça dans les commentaires de Théroméga quand on en sera rendu là. On va juste s'arrêter ici, en ce qui nous concerne dans cet article.